Merci Jonathan pour cette revue de presse. Il est 7h et près de 47 minutes, c'est l'heure de la carte postale de Belgique. Horst Naftanael et Helmut Klasen, ces noms ne vous disent peut-être rien, mais il s'agit de deux destins particuliers dont nous parle ce matin Alain Broz, le docteur en histoire, histoire de l'art et en archéologie. Il a créé une chaîne YouTube sur laquelle il poste des vidéos toutes plus intéressantes les unes que les autres, vous le savez, dans lesquelles il revient notamment sur les grands moments de l'histoire de sa région et de la communauté juive qui y vivait et qui y vit encore, même s'il reste très peu de juifs dans cette région. On le retrouve, Alain Broz.
Dans le précédent épisode, nous avons découvert le destin tragique de plusieurs familles juives d'Eupen, d'Astenet et de Hallorn. Des noms souvent oubliés, des vies interrompues, des enfants assassinés avant même d'avoir pu commencer leur existence. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui ont survécu. Attention, cela ne signifie pas qu'ils ont été épargnés. Bien au contraire. La plupart ont tout perdu, leur famille, leur maison, leur pays, et parfois même leur identité. Et pourtant, ils ont survécu. Grâce à leur courage, grâce à la solidarité d'inconnus, grâce à quelques décisions prises au bon moment, ou parfois simplement grâce à un hasard extraordinaire. Commençons par l'histoire de Horst Naftanael. Horst Naftanael n'était pas originaire de notre région. Il était né à Berlin. Lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, Horst Naftanael a très vite compris le danger que représentait le national-socialisme. Juif et politiquement engagé à gauche, il figurait parmi les personnes les plus menacées par le nouveau régime. En 1934, alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années, il a quitté l'Allemagne. Son choix s'est porté sur la Belgique. Pourquoi la Belgique? Tout simplement parce qu'il la connaissait déjà. Avant l'arrivée des nazis, il avait participé à plusieurs excursions à vélo et à des randonnées organisées par des mouvements de jeunesse communiste. Il gardait de ses voyages une image positive de notre pays. Comme beaucoup de réfugiés allemands, il espérait y trouver un refuge temporaire. Pendant quelques années, cette décision semble lui avoir sauvé la vie. Mais le 10 mai 1945, tout a basculé. L'Allemagne a envahi la Belgique et une situation paradoxale s'est produite. Alors même qu'il avait fui le régime nazi, Horst Naftanael a été considéré par les autorités belges comme un Allemand, autrement dit, comme un étranger. Comme des milliers d'autres réfugiés allemands, autrichiens ou tchèques, il a été arrêté et interdit. Les autorités belges craignaient alors que des agents allemands infiltrés puissent se cacher parmi les réfugiés. Dans l'urgence de l'invasion, il était difficile de distinguer les victimes des persécuteurs. Horst Naftanael a été envoyé au camp de Saint-Cyprien, dans le sud de la France. Les conditions de vie y étaient épouvantables. Construit à l'origine pour accueillir les réfugiés de la guerre civile espagnole, le camp se composait essentiellement de baraques rudimentaires installées sur le sable. La nourriture manquait. L'hygiène était déplorable. Les maladies se propageaient rapidement. Pour de nombreux internés, Saint-Cyprien ressemblait déjà à un camp de concentration. Mais Horst Naftanael a refusé de se résigner. Il est parvenu à s'évader. Nous ne connaissons pas tous les détails de cette fuite, mais nous savons qu'il a réussi à revenir clandestinement en Belgique. Cette seule évasion constituait déjà un exploit remarquable. Peu de prisonniers y étaient parvenus. De retour à Bruxelles, il est entré dans la résistance. Cependant, un autre problème s'est immédiatement posé. Son fils, né en 1939, était en danger. Chaque mois qui passait rendait la situation plus périlleuse. Les arrestations se multipliaient. La liste des Juifs était dressée. Les premières déportations commençaient. Horst Naftanael a compris qu'il devait agir. La décision qu'il a prise était probablement la plus douloureuse qu'il a dû prendre dans toute sa vie. Il a confié son fils à un couple d'amis bruxellois. Mais cela ne suffisait pas à le cacher. Il fallait lui donner une nouvelle existence, une nouvelle identité. Les cartes de rationnement étaient obligatoires. Les contrôles administratifs se multipliaient. Les enfants sans existence officielle risquaient immédiatement d'attirer l'attention. Les amis de Horst Naftanael avaient alors imaginé une solution audacieuse. Ils se sont rendus au commissariat. Ils ont déclaré qu'un bébé avait été abandonné devant leur porte. Et l'histoire a été acceptée par la police. L'enfant a été enregistré officiellement. Il a reçu des papiers. Il a obtenu des cartes de rationnement pour renforcer encore sa protection. Ses parents adoptifs ont décidé de le faire baptiser à l'Église catholique. Ainsi même, si quelqu'un enquêtait sur son identité, rien ne laissait deviner ses origines juives. Et cette décision lui a sauvé la vie. Pendant ce temps, Horst Naftanael poursuivait ses activités clandestines. Mais il a été arrêté par la Gestapo. Cette fois, il n'y avait plus d'échappatoire. Il a été déporté à Auschwitz. Pour la plupart des déportés, cela signifiait une condamnation à mort. Mais le destin en a décidé autrement pour lui. À Auschwitz-Monowitz, Horst Naftanael a bénéficié d'un avantage inattendu. Avant la guerre, il exerçait le métier de coiffeur. Or, les autorités du camp avaient besoin de prisonniers capables de raser les nouveaux arrivants. Ce travail n'était évidemment pas un privilège. Les conditions restaient terribles. Mais ce travail augmentait ses chances de survie. Dans l'univers concentrationnaire, une compétence particulière pouvait parfois faire la différence entre la vie et la mort. Puis, en janvier 1945, l'armée rouge s'est approchée. Les SS ont commencé à quitter le camp. Des dizaines de milliers de prisonniers ont été forcés de quitter Auschwitz dans des conditions effroyables. La fameuse marche de la mort. Horst Naftanael faisait partie de ces colonnes humaines. Il a survécu, encore une fois. Puis, il a été transféré dans différents camps, puis dans des wagons de marchandises, puis à nouveau vers d'autres camps. Cette errance carcérale a duré jusqu'à la fin de la guerre. Lorsqu'enfin, il a retrouvé la liberté, l'épreuve n'était pas terminée. Comme beaucoup de survivants, il a dû partir à la recherche des membres de sa famille. Il a alors découvert une réalité insoutenable. Sa femme avait été assassinée à Ravensbrück. Sa mère avait été tuée après son passage par la caserne d'Ossin à Malines. Comme des millions de survivants, Horst Naftanael avait compris que la guerre lui avait tout pris. Presque. Grâce au courage du couple qu'il avait recueilli, son fils avait survécu. Après la guerre, Horst Naftanael s'est installé à Eupen. Il est devenu un des très rares survivants des camps à faire de notre région son foyer. J'aimerais vous parler de Helmut Klaasen, qui, pour sa part, était enfant lorsque la guerre a commencé et qui a survécu grâce à la population de Völkerich et de Gemenich. L'histoire de Helmut Klaasen était très différente, mais elle était tout aussi extraordinaire. Helmut Klaasen était né à Aix-la-Chapelle en 1931. Son père était allemand, sa mère était juive. À mesure que les lois raciales se durcissaient, cette situation devenait de plus en plus dangereuse. Puis, le drame est survenu. En 1939, sa mère a été assassinée par les nazis. Helmut n'avait alors que 8 ans. Son petit frère était plus jeune encore. Les deux enfants se sont retrouvés alors dans un monde où le simple fait d'exister constitue une menace de mort. Heureusement, ils n'étaient pas seuls. Une amie de leur mère a décidé de les protéger. Pendant toute la guerre, elle est devenue l'un de leurs principaux soutiens. Mais la menace ne venait pas uniquement des autorités nazies. Elle venait aussi de leur propre famille. certaines tantes paternelles, profondément acquises à l'idéologie raciale du régime, n'avaient jamais accepté le mariage de leur frère avec une femme juive. Selon les témoignages de Helmut Knasen, elles ont joué un rôle tout à fait déterminant dans ce qui va suivre. Cette dimension rendait son histoire encore plus tragique. Parfois, les ennemis se trouvent au sein d'une même famille. À partir de 1944, le danger est devenu extrême. Les rafles se multipliaient. Les enfants étaient déplacés sans cesse. Ils ont trouvé refuge dans le monastère de Völkerich, près de Gemenich. Mais rester trop longtemps dans un endroit peut être dangereux. Les nazis multipliaient les recherches. Il fallait constamment changer de refuge. C'est alors qu'a commencé une existence presque irréelle. Helmut Knasen passait d'une cachette à l'autre, puis à une autre, puis encore à une autre. Au total, il a survécu grâce à environ 40 cachettes différentes. 40. Cela signifie qu'au moins 40 personnes ou familles ont accepté de prendre des risques considérables pour sauver un enfant qu'elles connaissaient parfois à peine. Et aujourd'hui encore, ce chiffre donne le vertige. Car il suffisait qu'une seule personne parle, qu'un voisin fasse une dénonciation, qu'un enfant se trompe, qu'un contrôle soit effectué, et tout pouvait s'effondrer. Pourtant, ces 40 anges gardiens ont tenu bon. Grâce à eux, Helmut Knasen a survécu jusqu'à la libération. Des années plus tard, il a raconté son histoire dans son livre « Maman, was ist ein Judenbalk ?»« Maman, qu'est-ce qu'un bâtard juif ?» Un titre qui résume à lui seul toute la violence de son enfance. Les histoires de Horst Naftanael et de Helmut Knasen nous rappellent une vérité essentielle. La Shoah n'a pas seulement été une histoire de bourreaux et de victimes, elle a aussi été une histoire de choix. Chaque personne qui a accepté de cacher un enfant, chaque famille qui a décidé de garder le silence, chaque voisin qui a détourné le regard, chaque religieuse qui a ouvert sa porte, chaque fonctionnaire qui a accepté, et pourtant ces sauveteurs demeurent souvent inconnus. Nous connaissons les noms des chefs nazis, mais nous ignorons parfois ceux qui ont permis à un enfant de passer une nuit de plus en sécurité. Et c'est précisément pour cette raison qu'il faut raconter ces histoires. Parce qu'elles montrent que même dans les périodes les plus sombres, certains êtres humains ont refusé de renoncer à leur humanité. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous verrons comment notre région entretient aujourd'hui la mémoire de ces événements. Nous partirons à la découverte des Stolpersteine, des pierres d'achoppement, ce sont des monuments commémoratifs, des victimes locales du nazisme et de ceux qui, après la guerre, ont voulu empêcher que ces histoires ne tombent dans l'oubli.